Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
J'ai rencontré les films de Christian Petzold grâce à Premier Plan. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Phénix, qui est pour moi un chef-d'œuvre tant sur le plan narratif, auditif que visuel. Voici le synopsis du film. Juin 45. Nelly Lenz, rescapée d'Auschwitz, est gravement défigurée. Après une opération de reconstitution faciale, elle parcourt les décombres de Berlin à la recherche de son mari Johnny. Mais ce dernier ne la reconnaît pas. Il lui propose de prendre l'identité de son épouse, présumée morte, afin de récupérer son héritage. Le résumer ainsi ne dit rien du film, ni des questions et des émotions qu'il soulève. J'analyserai Phénix en deux parties. D'une part, je montrerai ce qu'il fait du mélodrame et donc de la question du réel, comment il rend hommage à Hitchcock, en particulier à Vertigo. Puis d'autre part, la semaine prochaine, je m'intéresserai à la question politique du film, question si peu posée, le retour des déportés. Le film est une adaptation très libre du « Retour des cendres » de Hubert Montellet. En effet, même si le film reprend la trame narrative du film, une femme revient des camps méconnaissables et part à la recherche de son amour perdu qui ne la reconnaît pas et lui propose de jouer son propre rôle pour récupérer son immense fortune, le ton du roman est totalement différent de celui du film. D'abord par sa chute, et aussi parce que les personnages, y compris celui d'Elisabeth Wolff, la louve, tandis que dans le film elle se nomme Nelly Lenz, sont tous égocentrés et veulent. Il suffit de lire le début du roman qui, après une lettre d'un juge adressée à la fille d'Elisabeth Wolff, qui n'existe pas dans le film, est constituée du journal intime d'Elisabeth. Voici comment commence ce journal intime. Descendu hier soir à la gare de l'Est. Chemin faisant, j'ai songé au parcours inverse que je fis naguère dans une voiture à bestiaux. Je m'étais promis de discipliner mon imagination, de bannir de mon esprit le passé présent. Mais comment ne pas penser à quelque chose quand on ne pense qu'à n'y pas penser? Ai dormi tant bien que mal au centre d'accueil. Dès mon réveil, malgré la fatigue, j'ai marché dans Paris. Parfois des bouffées de souvenirs m'attendrissaient, une émotion incoercible me serrait la gorge. Mais je cessais tout d'un coup de vibrer et restais plongé dans une sorte d'apathie. Je ne ressentais pas comme il sied de ressentir. Je me rappelle à ce propos un bizarre incident de route. Il y avait dans mon compartiment deux enfants alsaciens et leur mère installés près de la vitre baissée. Le plus jeune, qui pouvait avoir un an, criait avec la dernière énergie. Comme je lui jetais des regards noirs dans l'espérance de le faire taire, la femme lui dit, faisant elle aussi les gros yeux, « Si tu continues comme ça, je te passe par la fenêtre et tu seras mangé par les loups. » Un instant plus tard, elle s'absentait. Le bébé cria de plus belle, sa petite sœur croyant bien faire s'en saisit et le fit passer par-dessus bord. Les loups n'étaient pas au rendez-vous, mais notre voiture franchissait lentement un viaduc en réfection. Or, je n'ai pas été touchée outre mesure. Encore un meurtre absurde, me suis-je dit sur le moment. J'ai gagné le couloir pour être tranquille. Il faut que je me repose. Au contraire, l'adaptation de Petzold montre un personnage toujours empathique et doux, traversé de questions, toujours à la recherche de ce qu'il y a de meilleur en l'homme, l'amour, et s'apparente au mélodrame. D'ailleurs, le nom du personnage, Lenz, signifie « printemps ». Nelly Lenz, le printemps, n'a rien à voir avec Elisabeth Wolff, la louve, qui est dénuée de sentiments. En effet, le film commence dans le noir et dans le silence absolu. Après le nom du réalisateur qui est apparu dans le silence, apparaît le noir et quelques notes de musique d'un standard de jazz. Le spectateur de 2014 ne reconnaît pas forcément ce standard, d'autant que le rythme, un peu ralenti, lui donne des airs de blues. L'air, qui reviendra en boucle dans le film et jusqu'à la scène finale, où il servira de révélateur, est un standard de jazz qui a été énormément chanté par des artistes comme Billie Holiday ou encore Chet Baker. Cet air est d'abord issu d'une comédie musicale de Broadway, One Touch of Venus, en 1943. Ensuite, l'actrice Ava Gardner, doublée par Elaine Wilson et Dick Ames, ont chanté la chanson dans la version long-métrage de One Touch of Venus en 1948. À plusieurs reprises, le standard reviendra en notes et en chants et chacun retiendra la rengaine des premières paroles. Speak low when you speak love. Speak low, darling, speak low. Pour l'instant, le spectateur n'entend que des notes qui semblent hésiter. Puis, le spectateur voit le profil d'une femme qui se tourne vers quelqu'un d'autre. Puis, dans le plan suivant, comprend qu'il est à l'intérieur d'une voiture qui se dirige vers un checkpoint. La musique langoureuse s'arrête pour être remplacée par une musique stridente qui renvoie cette fois au film d'horreur. Puis, la musique cesse. Vos passeports sont les premiers mots du film proférés par un soldat. Tandis que la femme tend ses papiers, le contre-champ, raccordé dans le mouvement des papiers saisis, nous montre l'autre profil de la femme au volant. Le flou de la profondeur de champ nous montre un être monstrueux assis à côté de la conductrice et qui cherche à se cacher. Cela n'empêche pas le soldat de noter, alors qu'il éclaire à plusieurs reprises l'intérieur de la voiture et ses habitants. « Belle bagnole ? Où l'avez-vous eue ? Elle a survécu en Suisse, répond la femme qui conduit la riche voiture. » Comme vous ? Comme moi. L'auto a survécu en Suisse, la fille aussi. Blague le soldat qui s'adresse à la cantonade aux autres soldats derrière lui. Il revient alors vers la conductrice et la voiture. Son visage se durcit. Je veux voir son visage. Le monstre se replie et geint. La conductrice sort de la voiture, la caméra reste dans la voiture. Je peux vous parler ? Je vous en prie. C'est pas Eva Braun. Le soldat rétorque. Bien sûr que non, cette salope a été tuée par son mari. La conductrice ajoute. Elle rentre des camps. S'ensuit une scène d'humiliation ordinaire où le soldat exige de voir le visage de la femme recouvert de bandages et de sang, puis, effrayé, demande pardon et les laisse partir. La voiture repart et une lumière devient totalement blanche. Le titre apparaît « Phoenix ». Nous allons d'abord suivre la lente reconstruction, métamorphose, renaissance de Nelly, dont les premiers mots sont adressés à Léna, la conductrice. Qui paie tout ça, l'aîné ? Toi ? Non, tu as hérité. Toute ta famille est décédée. Et Herbert et Marie, les jumeaux. Esther ? Je ne l'ai pas encore retrouvée. Où est Johnny ? La séquence se termine sur cette question sans réponse. Le mélodrame peut vraiment commencer. À partir de maintenant, le personnage va refuser le trivial, le grossier et le matériel pour partir en quête de son amour perdu. Le dictionnaire historique de la langue française définit ainsi le mot « mélodrame ». Ce terme d'histoire du théâtre désigne à l'origine une sorte de drame parlé dont certaines scènes comportent un accompagnement musical. Le mot, qui apparaît en France au moment de la querelle des bouffons, est alors emprunté à l'italien « mélodrama », qui désigne un drame entièrement chanté. Voisin d'opéra, et plus particulièrement d'opéra comique en ce sens, il en est venu à désigner un drame de ton populaire qui accumule des procédés poussés à outrance et accentue les effets pathétiques. Ce sens se répand avec la vogue du genre au XIXe siècle. Le mot entre dans l'usage commun pour caractériser un discours, une attitude, à la sentimentalité excessive. Il est parfois employé avec une nuance péjorative. Revoir Johnny, retrouver Johnny, va devenir son unique obsession. Se raconter qu'il ne l'a pas trahi et que même alors qu'il ne la reconnaît pas, il aime toujours. Se raconter qu'il n'est pas intéressé par son argent, mais qu'il est perdu. Elle se racontera cette romance jusqu'à la fin du film. On pourrait penser qu'il ne s'agit donc que d'une fable mièvre à la morale bourgeoise réactionnaire. Or, Petzold pense, comme Fassbinder, dont l'œuvre cinématographique se révèle essentiellement politique, selon le dictionnaire de la pensée du cinéma, dirigé par Alain de Beck et Philippe Chevalier. Fassbinder considérait que la République fédérale d'Allemagne avait occulté son passé nazi, hypothéquant ainsi les chances de sa possible reconstruction sur des bases nouvelles, d'autant que son régime démocratique lui aurait été simplement octroyé. L'influence de Bertolt Brecht est évidente, puisqu'ainsi, le cinéaste vise à conduire le spectateur à faire lui-même un film malgré la présence des images, au lieu de l'étourdir. C'est au sein de cette dualité identification-distanciation qu'il convient de situer le recours au mélodrame. C'est bien l'identification qui est stratégiquement recherchée par Fassbinder à travers le recours aux émotions propres au mélodrame, pour capter l'attention du public. Mais si en cela il veut faire des films aussi beaux que ceux d'Hollywood, il refuse pourtant que ses réalisations viennent ratifier la réalité. Par conséquent, si certains films de Fassbinder empruntent bien des structures mélodramatiques, ils excluent toute dramaturgie typiquement hollywoodienne en proposant d'emblée l'échec comme moteur du récit et non comme finalité. Friant, 2005. Dès lors, les codes du mélodrame sont en effet renversés et les perspectives vers un avenir radieux, au moins possible, sont aussitôt battues en brèche. C'est au fond essentiellement le mélange de réalisme et de stylisation caractérisant les réalisations de Fassbinder qui désamorce les mécanismes du mélodrame hollywoodien, notamment celui de la catharsis qui supposerait le déploiement d'une émotion non endiguée par l'esthétisme. Il est précisé par ailleurs dans l'article que le régime nazi s'était accaparé le mélodrame. Or, en renversant l'effet recherché par le mélodrame nazi qui cherchait à désactiver la réalité, à supprimer le quotidien par le mélodrame, c'est un renversement de cet effet que visait Fassbinder en vue d'une récupération des potentialités du mélodrame pour cette fois affronter le réel et non l'éviter et ou le refouler. Ainsi, cette quête désespérée de l'amour perdu est tout de même une manière de ressentir encore de ne pas être réduite uniquement à l'état de morte vivante, de fantôme. Le visage de Nelly, dont on sera si proche jusqu'à la fin, incarnera une puissance de vie et d'accusation envers le déni et le silence qui l'entoure, l'absence de questions. Il y a un plan qui montre Nelly reconstruite, qui marche dans les ruines de son immeuble. Elle se voit dans une glace coupée en deux, dans laquelle elle se reflète deux fois. Elle fuit. Ainsi, elle est, elle aussi, hantée par son propre fantôme. On peut aussi dire que Phoenix est une sorte de réécriture de Vertigo d'Hitchcock. Voici l'article que lui consacre le dictionnaire de la pensée du cinéma. Vertigo, le film réalisé par Alfred Hitchcock, mieux connu en France sous le vilain titre de Sueur froide, est un objet de fascination sans cesse renouvelé pour les penseurs du cinéma, et pas seulement du cinéma. Vertigo se distingue d'abord par sa construction formelle. La symétrie des scènes de clocher, où par deux fois, une femme incarnée dans les deux cas par Kim Novak, doit mourir, scande une narration diphasée. Aux deux tiers, un second scénario vient rejouer et déconstruire le premier, transformant une histoire de fantôme en une sordide affaire criminelle, sans que cesse de planer sur le film un climat d'inquiétante étrangeté. Pour déguiser un meurtre en suicide, la doublure Judy Barton de la future défunte, Madeleine Elster, feint d'être hantée par une énigmatique ancêtre, Carlota Valdés, avant de s'éclipser, de réapparaître et finalement de mourir à son tour. Pour mieux le comprendre, il convient peut-être de suivre simplement le fil suggéré par l'expérience immédiate du spectateur. C'est un sentiment de gêne ou d'inconfort inspiré par le personnage de Judy. Celle-ci, en effet, est à tous égards invraisemblable. Comment cette fille vulgaire, absurdement grimée par le regard pervers du réalisateur, a-t-elle pu si parfaitement incarner, toute la première partie du film, la splendide et fragile Madeleine ? Il faut repartir de cette évidence que le spectateur partage avec Scotty, l'imposture, le vrai simulacre, ce n'est pas Madeleine, dont l'image continue à hanter le récit à la manière d'une persistance rétinienne ou d'un faux souvenir, non, l'imposture, le simulacre, c'est Judy. Tout se passe comme si Madeleine s'était grimée pour échapper à son ancienne vie, comme si Judy n'était qu'une mauvaise farce, un avatar monstrueux de Madeleine, d'autant plus monstrueux qu'il est en fait quasiment indiscernable d'elle, comme le manifeste la scène où Scotty, tel un Pygmalion, parvient à ressusciter fugitivement le corps glorieux de Madeleine, emparant Judy des attributs de la défunte. Ainsi, le crime de Judy n'est pas d'avoir composé une fiction en la personne de Madeleine, mais de l'avoir laissée mourir pour usurper sa place, transformant du même coup la fiction en fantasme. Nelly n'est pas Judy, puisque c'est elle qui reconstruit son être et lutte avec les fantômes du passé. C'est elle aussi qui fantasme cet amour passé et tente de reconstruire cet amour passé. Nelly, à la différence de Judy, décide de reprendre le fil de son histoire. Elle ne s'annule pas, elle se réincarne quand même. Jusque dans le deuil de son amour perdu, Nelly ne se trahit pas. Cet amour perdu, c'est aussi le seul endroit où on lui permet d'exprimer sa souffrance, de parler, de dire, d'exister. C'est le seul endroit où on l'attend encore. Ainsi, sous des dehors de Mélo, qui ne s'intéresse à l'histoire que pour ses ressorts fictionnels, ce film ose raconter le retour des déportés et le nouvel abandon qui les attendait. C'est ce que je raconterai la semaine prochaine.